qu'il y a dans le paradis qui fait qu'on peut le mettre à la porte. On pourrait croire que n'importe qui désire le bonheur et donc qu'il va tout de suite accueillir le paradis, que la joie est ce à quoi tout le monde aspire et donc que la joie n'a rien qui dérange mais qui arrange. Or justement, le thème de ce livre, c'est de dire mais non, en fait, il y a quelque chose dans le paradis qui fait qu'on peut le refuser. Les démons, ils ont refusé la béatitude. Alors pourquoi refuse-t-on la béatitude? Qu'y a-t-il dans la béatitude qui fait qu'on puisse la refuser? Et donc ça m'a donné de réfléchir sur la joie et sur l'essence de la joie. Qui dit béatitude dit béance, dit vie entièrement ouverte, presque comme une blessure ouverte, ouverte sur l'autre, ouverte sur une transcendance. C'est une vie, on pourrait dire, d'offrande pure.
Donc vous le dites, le paradis n'est pas, si on peut dire, le royaume des bisounours, mais plutôt le lieu d'une joie que vous qualifiez d'exigeante, déchirante. Est-ce qu'on peut craindre une telle joie?
Il y a des paradis de la régression. Il y a des paradis où on voudrait être comme ça, en deçà de la responsabilité, dans une sorte d'extase, de bien-être, en dehors de tout drame. Et puis, cela, c'est vraiment ce qui est à refuser. Et en revanche, il y a un paradis que l'on doit chercher, ce paradis céleste, qui lui n'est pas du tout du côté de la régression, mais qui exige notre responsabilité, qui exige notre engagement, qui exige radicalement que l'on vive de la charité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant en lui? C'est parce que, d'une part, quand on accepte d'accueillir cette vocation que nous avons à la joie, on devient d'une certaine façon plus vulnérable. Parce que dès que cette joie manque, dès que cette joie est trahie, dès que le mal vient nous frapper, que ce soit par le péché ou parce que nous sommes frappés, dans ces deux cas, vous voyez, le mal apparaît alors comme un scandale. La chose facile, ce serait de dire, ah ben, de toute façon, nous ne cherchons pas la joie, ne cherchons plus la joie, contentons-nous de petits plaisirs mesquins, et comme ça, tout apparaîtra normal. Le mal, et toutes nos mesquineries, même nos trahisons, paraîtront ordinaires. Non, comprendre notre vocation à la joie, c'est aussi voir combien nous manquons à la joie, donc ça a quelque chose de terrible, et l'orgueilleux pourrait ne pas vouloir voir cela. Ensuite, l'autre chose, ce qui vient aussi contre l'orgueil, c'est qu'il y a dans la joie quelque chose qui est toujours reçu. Une joie qu'on essaierait de se donner à soi-même quand on essaye de se béatifier soi-même. Vous voyez, ça a quelque chose de laborieux, de suant, d'onaniste. La joie est toujours liée à une communion. C'est toujours dans une rencontre qu'on la reçoit. D'ailleurs, dans le christianisme, la vie éternelle n'est pas un état que l'on atteindrait par une technique. C'est une rencontre avec l'Éternel, c'est une union à l'Éternel, et s'unissant à l'Éternel, une union à toutes ses créatures. Et troisième chose, non seulement la joie est reçue, mais elle doit être communiquée, c'est-à-dire qu'on la reçoit, mais ça devient l'exigence d'une mission. J'ai le devoir, pour que ma joie ne se change pas en plaisir solitaire ou en ricanement cynique, j'ai le devoir, pour même être joyeux, de la répandre. Et donc c'est pour ça que la joie, d'une certaine façon reçue, notamment dans le mystère de la résurrection du Christ, nous envoie en mission, et une mission qui est une mission à mort, puisqu'on doit témoigner de cette joie, quitte à en mourir.
Alors vous vous expliquez aussi que l'histoire a montré ou bien une confusion entre la cité terrestre et la cité céleste ou bien une séparation nette entre les deux. Alors comment résoudre cette aporie?
Il est vrai qu'il y a toujours eu cette tension. Il y a un paradis vers lequel on ne peut plus retourner. Donc vous voyez, on sort avec l'annonce, dirais judéo-chrétienne, on sort du temps cyclique des sociétés traditionnelles pour entrer dans un temps historique. Il y a une tension messianique, on pourrait dire, vers une fin, et une fin paradisiaque. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, l'annonce du paradis a lancé le mouvement de l'histoire. Et il y a eu des tentatives, d'une certaine façon, pour empêcher la tension. Soit on a dit, ben, on va confondre la cité terrestre et la cité céleste. Ça a été le cas, par exemple, de certaines tentations théocratiques. Ou encore, ça peut être à l'inverse, la tentation, on pourrait dire, totalitaire, hein, où on disait qu'on allait faire le paradis sur la terre, que ce soit dans le nazisme ou dans le soviétisme. C'est toujours une obsession du paradis. J'essaie toujours d'expliquer que la notion de paradis n'est pas simplement une notion théologique lointaine. C'est quelque chose qui nous hante et qui crée le mouvement de l'histoire et qui, si on chasse le vrai paradis, va provoquer une multiplication, une prolifération de faux paradis. Tous ces faux paradis que l'homme essaye de se fabriquer et qui font en vérité des petits enfers tout à fait convenables. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre la cité terrestre et la cité céleste ? C'est justement à travers cette idée qu'on a besoin d'une instance qui nous dise qu'il y a quelque chose comme la vie éternelle, mais qui est une exigence pour ici et maintenant, vivre cette vie déjà dans la charité, mais que cette instance ne soit pas un État, que ce ne soit pas une instance de politique politicienne. Derrière ça, il y a la nécessité de l'Église, tout simplement. Quand justement cette sorte d'interface, de frontière, on pourrait dire de porte ou de lisière, à la fois pleinement sur la terre, mais dont l'accomplissement est au ciel.
Votre livre s'appuie sur de nombreuses expériences artistiques, sculpture, littérature, musique, poésie. Est-ce qu'on peut dire que l'art permet une approche plus véritable de ce que peut être le paradis ?
Si je parle du paradis, ça veut dire que je renvoie à quelque chose qui est couleur, lumière, musique, et donc à quelque chose qui exige la convocation de tout le génie artistique humain. Et je me suis rendu compte que tous, d'une certaine façon, parlaient du paradis, tous les grands. Bien sûr, Dante, bien sûr, Baudelaire aussi, l'auteur des Paradis artificiels, mais aussi Proust, mais aussi Kafka. Voilà, alors bien sûr aussi Mozart et puis Bernin. Il y a une autre raison à cela, une raison qui tient à l'essence même du paradis. Dans mon chapitre sur la résurrection de la chair, je m'interroge pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette résurrection de la chair ? Bien sûr, c'est l'intégrité de l'homme, hein, qui n'est pas simplement un esprit, qui est un esprit qui anime un corps, mais aussi, qu'est-ce que c'est que ce corps à partir du moment où, vous voyez, on est déjà dans la vision béatifique, donc on reçoit une lumière déjà de la vision de Dieu, une lumière spirituelle. Alors les sens ne sont plus là pour nous fournir vraiment, enfin c'est pas essentiel, fournir des connaissances nouvelles. Vous voyez, ici-bas, nous partons du sensible pour nous élever vers l'intelligible. Nous partons du charnel pour nous élever vers le spirituel. Or là, nous sommes complètement dans le spirituel quand on est dans la vision béatifique. Alors, de quoi sert le charnel ? Eh bien, vous voyez, le mouvement d'aller non pas du sensible vers l'intelligible, mais de l'intelligible vers le sensible, c'est précisément le mouvement de l'art. Un artiste a une idée créatrice et il va manifester quelque chose du spirituel dans le corporel, dans le charnel, dans le matériel. Ça veut dire que la résurrection de la chair nous indique que la vocation ultime de l'homme est une vocation qui est bien sûr premièrement contemplative dans la vision béatifique, mais qui par la résurrection de la chair devient une vocation poétique. C'est-à-dire ce que nous recevons de grâce surabondante dans la vision, nous avons à le déployer dans une célébration où l'on ne va pas cesser d'inventer et de réinventer de nouvelles manières, de nouvelles œuvres. C'est pour ça qu'il y a ultimement dans le corps de l'homme une vocation artistique, une vocation célébrante, de ressaisir tout l'univers matériel pour le tourner vers Dieu.
Vous parlez de la vision béatifique. On a souvent peur de l'ennui au paradis en n'ayant rien à faire que de contempler Dieu, et ce pour l'éternité. Que répondez-vous à cette peur ?
Il y a eu effectivement des imageries absolument douteuses où on voit, on pense la vision béatifique comme des gens qui seraient comme dans des compartiments avec peut-être des grands transats à contempler un spectacle ineffable, mais pour autant sans fin. Et donc effectivement, c'est une vision d'ennui. En plus, l'idée qu'on serait non seulement en Dieu, non seulement divinisé, mais devenu complètement éternel, c'est quelque chose qui pour nous est effrayant parce que notre nature est historique et donc on a l'impression que bon, cet absolu se confond d'une certaine façon avec le néant parce qu'il devient complètement irreprésentable et parce qu'en plus il a l'air d'aller contre notre goût de l'activité, notre goût d'être nous-mêmes, notre goût enfin d'être créature aussi et d'être dans le temps. Or, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a eu des visions complètement erronées Et j'essaye de montrer, du point de vue théologique le plus élémentaire, qu'il n'y a pas de concurrence entre le Créateur et les créatures, c'est-à-dire que plus la créature ira vers son Créateur, plus elle sera elle-même constituée dans son identité, hein, plus je vais vers Dieu, plus je suis moi-même, parce que c'est lui qui me tire du néant pour que je sois en vis-à-vis avec lui, uni à lui. Donc il n'y a jamais d'aliénation quand on est en Dieu, on reste soi-même. Plus je vais aussi vers le Créateur, plus je vais vers les créatures, il n'y a pas de concurrence. On ne peut aimer le Créateur qu'en allant vers ses créatures. Donc aller en Dieu, ce n'est pas abolir toute différence, c'est au contraire arriver au maximum de différenciation et au maximum aussi de rencontres avec les autres et des rencontres qui ne cessent de se renouveler et qui sont avec une telle surabondance qu'on n'en a jamais fini, vous voyez, d'approfondir cette rencontre. Et enfin, la dernière chose, c'est que la vision béatifique n'est pas une passivité, c'est une action béatifique. Quand on est plongé dans celui qui est la source de notre action, forcément, on devient encore plus actif, d'où la parole de Thérèse de Lisieux qui disait je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Être dans le Créateur, c'est devenir créatif. Être dans l'Esprit Saint, c'est être incroyablement inspiré. D'où la fécondité radicale, on pourrait dire, des bienheureux.